Le design thinking, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que ça veut dire que le design thinking. Alors, qui se lance pour m'expliquer, nous expliquer ce que c'est que vous pouvez le faire tous les deux, hein, à deux voix, hein, voilà, vous avez le droit. Donc, décrochez le micro, monsieur. Voilà, vous pouvez le prendre.
Alors, avant qu'on parte sur du design universel, qui est une extension, justement, l'application du design, le design thinking, c'est tout simplement l'utilisation de la boîte à outils du designer par des acteurs qui ne sont pas designers. Donc, c'est une approche qui est démocratisée, surtout par IDEO, une grande agence de design global aux États-Unis, entre les années 90 et 2000, suivie par des écoles de management en business qui considèrent que le designer a une approche de problem solving très intéressante parce qu'elle va être systématique, elle va mettre les utilisateurs au cœur de la démarche, elle va croiser justement autour de ses utilisateurs et de l'aspect de désirabilité de ce qui va être conçu, l'aspect économique, donc sa viabilité du projet qui va être pensé, et l'aspect technique. Donc ça raccourcit en fait la formulation de solutions, qu'elle soit pour l'organisation, qu'elle soit des offres ou des nouveaux produits, avec le croisement donc de la désirabilité, de la faisabilité et de l'aspect technique de la solution à concevoir.
Madame Buisine, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a donné une bonne définition à votre voisin? Ou est-ce qu'il faut, vous qui êtes prof, il faut le corriger un petit peu ou pas?
Non, pas du tout. Il ne faut pas corriger. C'était parfait, à la fois clair et synthétique. Je n'ai rien à rajouter par rapport à cette définition.
Ah bon, donc une bonne note. Bon, alors, vous avez vu sur le tableau design spécifique et design universel. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, ces deux notions? Quelle différence entre ces deux notions? Quels sont les avantages et les inconvénients d'opter pour l'une ou l'autre de ces notions quand on veut s'adresser à un public de seniors? Alors, qui répond également à cette question?
Je peux donner
allez-y, madame,
première,
si vous avez le micro.
Voilà,
mais,
des premiers éléments de réponse. Donc, la différence majeure entre le design universel et le design spécifique, ça va être principalement le périmètre ou la population à laquelle on va s'adresser et qu'on va cibler dans le projet de conception ou d'innovation. Donc, dans le design spécifique, eh bien, on va bien définir sa population cible avec des critères d'inclusion, d'exclusion aussi, quelque part. Et à l'inverse, en design universel, on va viser la population la plus large possible, c'est-à-dire qu'on va surtout pas chercher à retenir des critères d'inclusion, mais on va chercher à s'adresser à la plus grande diversité possible. Donc ça, c'est le point de départ différent entre les deux démarches. Puis après, ça implique beaucoup de différences ensuite dans la conduite du projet.
Vous vouliez, monsieur Boudin, ajouter quelque chose sur ces notions, nous donner votre éclairage également?
Alors, c'est moins un apport. Moi, je ne suis pas designer, mais c'est vrai que j'avais discuté quand j'étais à Grenoble avec une ergonome, et je voudrais bien entendre les réactions des vrais designers sur cette question. Une ergonome qui m'avait dit, finalement, si un produit est adapté pour tout le monde, en fait, il est adapté pour personne. Et je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on résout un peu ce paradoxe dans le design universel versus design spécifique.
Et ben voilà, vous venez de poser une question intéressante. Mais monsieur Caron pourra aussi répondre, hein, parce que lui, c'est un expert du sujet. Comment on fait pour pas se planter finalement, hein?
D'abord, on ne peut jamais garantir qu'on ne se plante pas.
C'est juste.
Bon. Et puis, lorsque l'on est designer, c'est-à-dire sur le terrain, ce qui est mon cas, et c'est pour ça que j'apprécie toutes les belles formulations qui viennent d'être faites, parce que ça se fait en amont de notre travail, et on a besoin de ça. La définition est déjà faite quand on se met au travail. C'est pas nous qui déterminons si c'est universel, si c'est spécifique, etc. Donc là-dessus, c'est pour ça que je reste très modestement dans mon coin, parce que j'ai affaire à des experts. Mais l'universel peut avoir aussi plusieurs sens, hein, et un sens même... il est très rare qu'il y ait des designs universels réellement. Hein. Le design universel existe dans le domaine, par exemple, de la santé, dans le domaine de la dépendance, parce que quand vous souffrez d'arthrose, que vous soyez chinois, français, américain, vous souffrez d'arthrose. Alors que dans les autres formes de design, que ce soit le transport, l'automobile, il y a des attentes différentes en Chine, en Europe, aux États-Unis, et dans les domaines du design alimentaire de service, là, il y a de très grandes différences selon les cultures. Donc, c'est pour ça que le design universel ne s'applique pas réellement à tous les domaines du design. Je parle concrètement, pas au niveau de définitions qui ont été très bien faites précédemment. Donc voilà ce que je peux dire.
On va aller faire un tour au Japon avec vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer, nous raconter ce que vous avez vu au terme de 150 voyages au Japon, oui. C'est ça? Donc vous connaissez un petit peu le pays, donc vous avez eu l'occasion de voir pas mal de choses intéressantes. On va entrer un peu maintenant dans les détails, maintenant, mesdames et messieurs, à travers votre expérience, à travers les entreprises ou les institutions auxquelles vous appartenez. Question pour vous deux, messieurs Talek et Boudin. Vous intéressez aux nouvelles technologies. Et traditionnellement, et au début, la Silver Economy, ça a été de travailler sur des technologies, j'allais dire sur des gadgets, c'est pas ça, mais sur des objets high-tech pour améliorer la vie, les conditions de vie des seniors. Quels sont les enjeux de ces notions de design autour de l'utilisation des nouvelles technologies? Alors, comment on se débrouille vis-à-vis des nouvelles technologies qu'on veut placer auprès des seniors? Comment on travaille? Alors, Monsieur Talek puis Monsieur Boudin, allez-y.
Je vais raconter un exemple qu'on a accompagné il y a 2 ans.
Attends, bien près du micro, voilà.
C'est e-stent, des stents connectés pour permettre de pallier aux problèmes de cœur. Ce stent qui permet d'élargir les coronaires a 5 ans devant lui avant de sortir sur son marché. Il est fait par des ingénieurs de Polytechnique et des acteurs de la santé. Et en fait, dans notre accompagnement, ils n'avaient pas forcément anticipé tout le parcours data qu'il allait falloir concevoir en même temps qu'on concevait la solution technologique et sa mise sur le marché réglementaire. Et donc en fait, ce qui se produit sur ce type de nouvelles technologies qui vont intégrer le corps, qui vont intégrer l'environnement du patient, qui vont être des interfaces entre le patient et le corps soignant et le corps mutualiste, c'est qu'il y a des nouvelles interactions qui se mettent en place. Et la donnée va être au cœur de ces nouvelles interactions parce que personne n'a la feuille de route de gouvernance de ces données très privées, personnelles, qui sont corporelles et qui vont changer les modèles économiques des mutuelles, des assurances et peut-être même du remboursement. Roche travaille sur un médicament qui s'appelle le médicament multitechnologique qui pourrait demain en fait valider la performance de ces molécules et le remboursement ou non par rapport au traitement qui est fait pour les patients. Donc c'est ce type de sujet qu'on peut accompagner dans notre approche puisqu'on conçoit donc en mail design sur des produits services systèmes et pour le patient ce qui va changer c'est tout ce nouveau monde à l'intérieur de lui avec des nouvelles technologies de pointe qui vont changer la manière dont on le soigne de manière très performante. Toutes les technologies qui vont être dans son environnement, qui vont permettre de changer les interactions qu'il a avec les acteurs du soin. Et je suis un petit exemple, mais qui montre que l'écosystème des patients est complètement transformé par la technologie. C'est aux États-Unis, ça s'appelle Glocaps, et c'est un petit capuchon d'une boîte de pilulier. Glocaps, il a été précurseur dans les années 2010, et il y a d'autres solutions aujourd'hui, mais il avait comme stratégie d'alerter le patient qui souffrait d'Alzheimer par différents canaux et par différents moyens de sa prise ou de sa non-prise de médicaments. Et donc du coup, il y avait des paliers de réponse qui allaient jusqu'à déclencher sur les réseaux sociaux ou des appels téléphoniques aux proches de la famille l'alerte pour la prise ou non du médicament de certains patients. Donc on voit que sur un petit objet aussi simple qu'un pilulier, on peut complètement transformer le jeu d'acteur qui va avoir lieu et servir avec pertinence ou moins de pertinence, en tout cas c'est des explorations, le soin pour ce patient. Donc pour les silvers, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une infinité, une granularité d'interactions nouvelles avec cet écosystème de soins qui vont se produire. Et je pense que je vais laisser la parole à mon collègue sur l'aspect psychologique, parce qu'au-delà de ces technologies et de la conception de ces solutions, ce qu'il faut vraiment penser, c'est la transformation des habitudes et la gouvernance qui va aller avec ces nouvelles solutions.
Monsieur Boudin, à vous la parole.
Merci. Alors, c'est vrai que, effectivement, je vous rejoins. Nous, on accompagne un certain nombre d'industriels qui créent des solutions et souvent, ils ont une vision, finalement, pas suffisamment large, en fait, de la chaîne de valeur qu'ils doivent créer. Mais je pense que si on veut vraiment résumer l'enjeu autour des nouvelles technologies et sous l'angle, on va dire, du design, je trouve que ça a été très bien résumé par une professeure à Eindhoven, Madame von Brunswick qui disait en fait que finalement le problème, on va dire, de ces technologies, c'est que ce sont des technologies qui sont dédiées à des personnes âgées, des femmes de 80-90 ans, et qui sont conçues par des hommes qui ont 30 ans. Et ça résume, je pense, bien l'enjeu en fait en termes de design, et notamment, j'espère qu'on va en parler, de la prise en compte de l'utilisateur dans l'utilisateur final, dans la conception, dans les étapes même très précoces de la conception, même pour faire naître l'idée d'un produit. Tout à l'heure, quand on vous a parlé de design thinking, on vous a dit que c'était donc de la résolution de problèmes. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on définit les problèmes ? Et je pense qu'en fait la conception, elle commencerait même déjà à ce moment-là. Comment est-ce qu'on conçoit des problèmes ? Et après, effectivement, on a des beaux outils, de, notamment inspirés du design, pour essayer de les résoudre.
Alors, on va rester un peu avec vous, Monsieur Boudin, parce que vous avez une notion qui vous est chère, je crois, dans vos travaux. Vous parlez d'un... Pardon. Comment résoudre le problème du chat dans la gorge ? Ça y est, c'est réglé. Vous parlez d'un troisième homme, d'un médiateur qui est nécessaire pour arriver à répondre à ces questions, pour renforcer le lien entre le concepteur et l'utilisateur. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, vous parliez un peu de ça, de ce médiateur. On ne peut pas s'adresser directement à l'utilisateur, au client consommateur. C'est quoi cette notion de médiateur ?
C'est vraiment en fait très en lien avec ce que je viens de dire, puisque la question est de savoir quel est le problème à la base et au final quel est le besoin. Et ça, c'est vraiment une question moi, que je rencontre très très fréquemment. En fait, on se rend compte que, je vais le dire un peu crûment, mais finalement, les seniors n'ont pas de besoin. Ça n'existe pas, le besoin. Ce qui existe, c'est la rencontre entre une offre technologique et, on va dire, une vie quotidienne, des habitudes, effectivement, soit des habitudes existantes, soit des habitudes à créer. Et donc, vraiment, par rapport à ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à la notion de médiateur, en fait, c'est vraiment là aussi une expérience de terrain, on va dire. J'accompagne au quotidien des créateurs, des porteurs de projets. Et en fait, je me rends compte que quand on conçoit un produit, eh ben, ce produit, on y est très attaché. Et que quand on l'expose à des utilisateurs, quelquefois, il est difficile d'accepter tout simplement que ce produit-là, il ait des défauts, qu'il ait des points d'amélioration, etc. D'où l'importance, à mon sens, d'un troisième homme. Alors évidemment, c'est ce que je vis au quotidien, c'est peut-être pas indispensable, mais en tout cas, moi, je vois vraiment notre plus-value, c'est qu'on arrive non seulement à traduire deux univers qui se connaissent mal, le fameux homme de 30 ans, oui, et cette dame de 80, et aussi cette question finalement de l'attachement, je dirais presque affectif, à un produit, à un service qu'on porte au quotidien. Les gens qu'on accompagne sont des porteurs de projets, des gens passionnés qui ont envie de changer le monde authentiquement et qui le font pour certains. Mais c'est très difficile quand vous présentez un objet que vous travaillez, sur lequel vous travaillez depuis 2 ans ou 3 ans, ou comme vous le disiez, 5 ans, et puis que vous le mettez dans les mains d'un utilisateur, et là l'utilisateur il n'arrive pas du tout à s'en dépatouiller. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, au cœur de ce problème là c'est comment est-ce que on peut accepter cet aspect critique, etc., dans la conception, et au final comment on peut inclure l'utilisateur comme un co-concepteur. Et nous, donc vraiment à Medialist, c'est notre approche de conception participative, de se dire en fait non, l'utilisateur, le testeur, c'est pas juste quelqu'un qui donne un blanc-seing, ou c'est vraiment, il est un concepteur dans l'équipe de conception d'une certaine manière. En tout cas, on essaye de tendre vers ça.
Et voilà. Vous travaillez avec les aidants notamment, plutôt que la personne âgée. Bon, je parle des personnes âgées dépendantes en direct. C'est eux aussi les co-concepteurs pour bien réussir dans ce domaine ?
C'est une des difficultés, je dirais aussi, de cet aspect de Silver Economy, c'est qu'en fait, on essaye de répondre à des tas et des tas de situations différentes, et donc effectivement, on prend toujours en compte tout l'écosystème, c'est-à-dire la personne âgée, et effectivement, ses proches aidants, et aussi les aidants professionnels, qui font vraiment partie de la boucle. On pourrait élargir encore, il y a également les financeurs, enfin il y a toute une série de personnes, mais en tout cas oui, tout à fait. Les technologies ne s'adressent pas que à la personne âgée, bien évidemment.
Alors vous venez déjà de nous donner une piste, donc pour savoir comment bien s'adresser aux personnes âgées, passer par ce médiateur, pas aller parfois en direct, hein, tout de suite auprès de l'utilisateur qui va être un peu perdu. Je voudrais qu'on vous passe la parole, Madame Buzine. On vous passera aussi la parole tout à l'heure, Madame Jameau, parce que vous avez des choses à nous dire à propos de ce que fait l'AFNOR. Vous, je crois que vous conseillez, Madame, pour le choix du design, de raisonner en gamme de produits. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pour réussir, donc, là encore, à bien toucher la cible ?
Donc, mes travaux s'inscrivent dans l'approche de conception universelle qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. Et justement, l'un des objectifs, c'est de répondre à l'objection qu'un produit qui serait adapté à tout le monde serait adapté à personne. Justement, c'est parce qu'en fait, il y a une confusion qu'il faut éviter. C'est conception universelle ne veut pas dire produit universel. C'est-à-dire que quand on utilise la conception universelle, l'objectif n'est pas de faire un produit unique qui intègre des réponses à des besoins incompatibles. Parce que ça, c'est qualifié d'utopie. Et oui, je reconnais tout à fait que c'est impossible de faire un produit qui soit conçu pour caricaturer un petit peu, hein, pour à la fois pour des qui répondent aux besoins des aveugles, et puis des sourds, et puis des paraplégiques, et puis des personnes âgées, et puis des enfants. Ça, on est d'accord. Par contre, une approche qui fonctionne bien à tout point de vue, c'est-à-dire à la fois au niveau fonctionnel, au niveau ergonomique, au niveau économique et aussi au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est la fameuse conception modulaire. Donc le principe, c'est de concevoir une gamme de produits qui vont partager des caractéristiques fonctionnelles, des caractéristiques aussi d'identité de produit, mais qu'on va pouvoir décliner pour répondre plus précisément à des besoins de façon personnalisée. On parle aussi de personnalisation de masse ou de customisation de masse. Et ce dont on se rend compte, c'est que là, non seulement c'est pas utopique, parce que ça fonctionne, mais c'est aussi une solution qui est extrêmement performante au niveau industriel, donc qui permet aux entreprises qui l'appliquent de couvrir une plus large, un plus large pourcentage de population, donc de gagner en part de marché, de faire des économies sur le coût de la non-qualité, parce que les modules fonctionnels communs à la gamme de produits, du coup, ils vont être optimisés. Hein, c'est ce qu'ils ont fait dans l'automobile avec des résultats très, très importants, très, très intéressants, à la fois en termes de gains de performance et aussi de gains économiques. Et donc, ça permet en même temps de décliner un produit pour répondre à des besoins spécifiques d'une personne qui aurait des troubles de la vision, des troubles moteurs, des troubles cognitifs, etc. Et tout en partageant une identité de produit commune, c'est-à-dire en évitant ce qu'on appelle la stigmatisation. Parce qu'un des problèmes de la conception spécifique, c'est de dire, moi j'ai des besoins particuliers, donc je vais utiliser un produit particulier. Et finalement, le fait que mon entourage, mais aussi moi-même, je me vois utiliser ce produit, quelque part, ça souligne mes différences. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation, et c'est quelque chose de vraiment fondamental dans l'acceptation du produit, dans l'usage, dans la participation sociale. Donc la conception universelle et la conception modulaire sont aussi des manières de répondre à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui utilise un produit, mais derrière, on n'est pas capable de déceler « Ah, elle utilise tel produit parce que elle a peut-être des troubles de cognitif, ou bien elle doit avoir des troubles de la vision, ou bien elle est handicapée, ou bien etc. etc. »
Oui, il faut être très diplomate dans ce que vous êtes en train de
dire.
Non,
c'est pas une histoire de diplomatie. C'est une histoire d'estime de soi, c'est une histoire de participation sociale, donc c'est fondamental. La diplomatie, c'est peut-être quelque chose
Utilisé le mauvais mot, effectivement.
Voilà, c'est presque un critère, rédhibitoire. Mmh. C'est-à-dire que vous avez beau faire un produit qui soit performant au niveau fonctionnel, au niveau, industriel, robuste, etc., mais qui, de toute façon, ne sera pas acheté et a fortiori pas utilisé parce qu'il sera considéré comme stigmatisant ou discriminant.
Alors, quand vous parlez de gamme de produits, par exemple, je ne sais pas, vous avez parlé d'automobile, on pourrait parler des tablettes. On peut avoir une gamme, est-ce que je prends un bon exemple, de tablettes qui démarre pour des très jeunes comme vous tous, ici, et puis qui vont être utilisables par des centenaires ou des gens de 150 ans, puisque ce sera le thème de la dernière conférence du jour à partir de 15h.
Les tablettes, c'est un produit un petit peu plus complexe parce qu'il y a le côté hard et le côté soft. Dans la tablette, en fait, la modularité, elle est surtout faite au niveau logiciel. Mmh. Et puis, on va essayer d'avoir un support hardware, un support électronique qui soit, lui, par contre, unique. Et en fait, ça marche. Hein, c'est-à-dire que Apple, ils ont obtenu plein de prix de conception universelle avec un support unique, mais avec des déclinaisons logicielles différentes en fonction des besoins. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé le mode aveugle, c'est-à-dire le mode d'interaction sur l'iPad qui est adapté pour les personnes qui ne peuvent lire l'écran.
Oui.
C'est très déstabilisant quand on voit, mais par contre, ça marche super bien. Une fois qu'on a compris comment ça marche, Ça permet effectivement d'accéder aux fonctionnalités de l'outil et du produit.
Pour réussir à placer le bon produit à la bonne personne, sans la stigmatiser, etc., il ne faut pas travailler tout seul dans son coin, vous êtes peut-être d'accord les uns avec les autres, il faut être pluridisciplinaire, il faut des psychologues, il faut des sociologues, il faut des économistes, des ingénieurs, comment ça se passe concrètement? Pardon pour le bruit, il y a pas mal de... Monsieur...
C'est sûr que les équipes pluridisciplinaires sont indispensables. Je suis désolé, je parle un peu plus fort comme on a la...
Oui, parce que lui, il parle fort à côté. On va parler plus fort que lui, on s'en fiche. Hein.
Mais effectivement, je crois qu'il y a vraiment cette pluridisciplinarité. Je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Je laisserai Madame Vizine finir. Mais je crois que aussi la pluridisciplinarité, elle est très disciplinaire. En fait, moi, comme je vous ai dit, hein, je suis psychologue, je travaillais en maison de retraite. Quand je parlais de pluridisciplinarité, ça voulait dire travailler avec l'infirmier, mmh. avec le médecin coordinateur de la maison de retraite, avec les aides-soignants. Quand on parle de conception, évidemment, on parle d'autres professions. Et je laisse peut-être Madame Vizine nous parler de ses professions.
Oui, mais enfin, les acteurs que vous venez de citer sont très importants, sont fondamentaux pour la réussite du projet. Et après, effectivement, à cela, il faut rajouter des spécialistes.
Ne vous laissez pas troubler, madame.
Non,
vous
c'est bon, je m'accroche.
Tout à l'heure. Il n'y a pas de souci.
Et si je peux rajouter quelque Monsieur chose, Talek. C'est cette pluridisciplinarité, elle doit rechercher le set de connaissances essentielles au projet. Donc, c'est plutôt de la représentativité que de l'exhaustivité. Quels vont être les acteurs, leurs enjeux, les efforts d'alignement pour que ce produit puisse naître. Ça va sûrement, produit, service ou offre, ça va sûrement changer un écosystème. Et du coup, il faut les parties prenantes et peut-être les nouvelles parties prenantes de cet écosystème à mettre autour de la table et penser cette pluridisciplinarité du point de vue d'un management des connaissances utiles au projet.
On va donner la parole tout à l'heure à Monsieur Caron parce qu'on a hâte de voir ce qu'il va nous dire sur le Japon. Mais avant, je voudrais que vous, Madame Jameau, pardon, je vous passe enfin la parole. Vous avez mis au point à l'AFNOR une labellisation, un label, une certification pour être certain que le produit satisfasse bien la clientèle voulue des seniors. Expliquez-nous un peu ce que vous avez mis en place. Ça, c'est assez nouveau et assez important.
Alors, nous avons mis en place un label.
Voilà.
Qui s'appelle testé et approuvé par les seniors et qui concerne les produits. On a voulu circonscrire aussi notre démarche parce qu'effectivement il y a les services, mais voilà, le champ est large. Donc un label pour les produits qui a un nom volontairement très explicite. Alors effectivement on est rentré à un moment dans de grandes discussions quand on a travaillé sur le sujet. Est-ce qu'il faut mettre senior ou pas dans le nom du label? Est-ce qu'on porte un projet effectivement avec un caractère un peu plus universel pour tous? Ou est-ce qu'on va vers un label plus spécifique? Alors on a fait un choix donc qui est révélé par le nom. Donc tester et approuver par les seniors ne veut pas nécessairement dire produit pour uniquement les seniors. Hein, la formalisation
courage, madame, courage,
a son
courage.
Importance. Je lève à mon tour la voix. Donc ce label, il consiste en fait à une évaluation de l'usage qui est fait du produit. Donc notre idée était de donner des éléments, des indices de confiance pour les seniors, pour leurs aidants évidemment, qui soient effectivement
des proches.
Oui, c'est
pas pour les seniors, c'est aussi à destination des aidants, il faut bien le dire là aussi.
Oui. Alors les seniors effectivement décident pour certains, et comme nous d'ailleurs, de nos achats.
Mais les aidants aussi.
Mais effectivement les aidants, qu'ils soient proches, familiaux ou aidants professionnels, effectivement, peuvent être prescripteurs, peuvent aider en tout cas à la décision d'achat ou à l'identification en tout cas des produits qui pourraient correspondre. Alors, je ne vais plus dire des besoins puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était pas toujours le bon mot, ou en tout cas voilà des attentes ou des habitudes de vie. Donc on a pensé donc un label qui s'articule vraiment autour de l'usage qui est fait du produit. Donc ce produit quand on l'achète. Quand on l'a chez soi, soit quand qu'il est installé par un tiers, soit qu'on l'a dans une boîte, comment on va vivre son utilisation, donc même comment on va le déballer parfois, peut-être l'assembler avant de l'utiliser, aller vers une utilisation intuitive ou avoir besoin d'une notice, peut-être le démonter une fois qu'on a fini d'utiliser. On va essayer d'imaginer en fait quel est le parcours d'utilisation du produit. Puis, on va exposer donc ce produit à une double évaluation. Une évaluation, et je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu ou qui sont passés sur le stand, ils vont dire que je me répète, mais une évaluation senior, donc avec un panel de seniors bénévoles et volontaires qui vont venir donc vivre cette expérience utilisateur. Et puis, une évaluation expert avec des ergonomes et des ergothérapeutes qui, eux, vont effectivement avoir une approche différente de ce produit. Donc, chacun évalue individuellement le produit. Donc, il y a des grilles d'évaluation. On aboutit à des notations de critères et on aboutit à des scores, au final. Et au-delà des scores, l'ergonome qui est en charge, en fait, du test va aussi avoir des face-à-face avec les seniors pour aller recueillir autre chose que, effectivement, un questionnement qui est défini dans le cadre d'un protocole. Donc, on va avoir aussi le recueil d'éléments plus qualitatifs et, effectivement, on renvoie aussi à l'affect. Et puis, donc, au final, on peut ou pas donc être labellisé et donc arborer ce logo. Et là encore, dans la conception même du dispositif, on laisse vraiment la possibilité à l'entreprise, puisque évidemment, c'est quand même son produit et sa stratégie de développement. Donc, elle est libre ensuite d'aller utiliser le logo comme bon lui semble. Donc, quand on a un produit qui est pensé, vraiment conçu pour les seniors et qui s'adresse à... Enfin, je pense par exemple à des produits de téléassistance où on va dire quand même que peut-être une grande partie, en tout cas, de la cible sont bien les seniors. Alors, on va aller peut-être plus facilement vers des logos qui apparaissent, par exemple, sur l'emballage. Mmh. Quand on a des produits qui sont plutôt des produits pour tous, puisque un plan vasque, par exemple, un meuble de salle de bain peut être adapté à tout le monde, et néanmoins, on peut, dans sa communication, aller effectivement, quand on décide de communiquer en direction des seniors, à ce moment-là, aller argumenter sur la démarche volontaire qui a été faite par les entreprises d'exposer à la critique et de rencontrer quelque part aussi les seniors directement et d'avoir leurs commentaires. Donc voilà.
Il y a une vraie enquête avant de pouvoir bénéficier de ce label pour les entreprises, j'ai bien compris, avec un panel d'utilisateurs et puis un panel d'experts, comme le sont ces dames et ces messieurs autour de vous. Le label, il est lancé concrètement ? Il existe déjà sur les produits ?
Oui. Alors, il existe.
Ça, c'est une vraie révolution, c'est une vraie nouveauté. C'est vrai que c'est fois, quand il s'agit d'acheter un produit pour un senior, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Il est apparu tellement de produits au cours de ces 10 dernières années sur le marché qu'on se dit, pourvu que j'en ai besoin, pourvu que ça me serve à quelque chose. Donc, c'est récent, c'est en cours.
Alors, c'est effectivement très récent. Donc, il n'y a qu'une douzaine de produits qui sont labellisés à ce jour.
Oui.
Voilà, le communiqué de presse est parti le 26 octobre.
Oui.
C'est aujourd'hui, dans le cadre du salon, la première fois que l'on communique vraiment très, très clairement sur ce projet, enfin, qui n'est plus un projet maintenant, sur ce label. Donc, c'est une démarche très récente et qui, mais très longue, enfin, qui a été mûrie quand même dans la durée et qui répond effectivement à des attentes que l'on comprend bien, effectivement, d'identifier les produits qui peuvent être intéressants et puis aussi, une visibilité pour toutes ces entreprises, parce qu'on parle souvent, quand on parle de silver economy, d'un marché atomisé. Mmh. Et c'est vrai, donc évidemment, il y a de grandes entreprises qui sont venues vers le label, mais il y a aussi des entreprises avec un rayonnement ou une notoriété différente, en tout cas. Et on a, en tout cas, pour ambition de les aider dans leur développement et de les aider à faire connaître leurs produits, leur effort en R&D.
Et vous dites produits, c'est pas des prestations, pour l'instant.
Non,
c'est vraiment du produit,
vraiment
des objets concrets.
Voilà.
C'est pas des prestations que vous pourriez comme ça labelliser.
Non, alors en tout cas pas tel qu'est conçu le dispositif aujourd'hui.
D'accord. Voilà. Il ressemble à quoi le label ? On n'a pas une idée, on n'a pas d'image là à montrer, mais c'est quoi ? C'est un monsieur, une dame très vieux avec une canne ? Non, c'est pas ça quand même au moins.
Non, on est sur des mots, voilà, des couleurs que l'on veut volontairement dynamiques.
On verra tester et approuver par
les seniors.
Les seniors.
Tout à fait.
Donc une douzaine de produits aujourd'hui.
Oui.
Demain, ça peut être quelque chose de très utile. Et la vocation, c'est que vous ça puisse être appliqué à des centaines, voire des milliers de produits.
À tout type de produits. On espère bien élargir le champ des produits intéressés. Là, on est beaucoup, évidemment, sur l'habitat, puisque une préoccupation certaine et avérée, majeure. C'est effectivement de vieillir, si possible, chez soi, le mieux possible, en meilleure santé, avec le plus d'autonomie possible. Donc, on a forcément plutôt des produits qui concernent l'habitat qui, aujourd'hui, nous viennent nous voir. Et puis, pour revenir sur le design universel et design spécifique, on verra aussi avec le temps, en fonction des produits qui viennent à nous, si c'est plutôt les uns ou plutôt les autres ou du design modulaire. Ça, là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt, en tout cas, pour pouvoir le dire. Mais par contre, dans les produits qui sont labellisés, il y a des produits qui ont beaucoup travaillé sur cette notion de co-conception, qui sont déjà au niveau des prototypages, effectivement, entourés d'un certain nombre de compétences et qui se sont confrontés déjà à la vie des seniors. Alors, parfois, certains types de seniors et pas tous. Donc, ce en quoi le label apporte un plus. Et puis, il y a des produits. Nous, on a eu quelques remarques d'entreprises qui nous ont dit, on a pensé ça dans notre coin, même si on était très enthousiastes. Et puis, on le fabrique, mais on le commercialise pas. Donc, en fait, on n'a jamais eu de retour. Et ce label, c'est aussi un moyen d'avoir un retour, effectivement, sur ce que pensent les seniors de leurs produits.
On va revenir tout à l'heure sur... On va essayer de lister ensemble, à la fin de cette conférence, les bons critères à appliquer, qu'on utilise du design spécifique ou universel pour bien toucher la cible, voire vraiment vous donner des conseils pratiques. Mais avant, on va prendre l'avion, on va aller faire un petit tour au Japon avec notre guide, Gérard Caron. Voilà, attachez vos ceintures, voyage au Japon. Et je voudrais, Gérard, que vous nous expliquiez un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu là-bas, comment on se dépatouille de ces notions de design spécifique et design universel, comment font les Japonais qui sont assez en avance par rapport à nous. Vous aviez eu l'occasion l'an dernier déjà lors d'une conférence de nous en parler. Alors à vous de nous expliquer ça un petit peu. Il y a des choses très pointues là-bas.
Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter un centre commercial du groupe E.ON qui met en application d'une certaine façon tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent.
D'accord.
C'est-à-dire que le design universel, le design spécifique s'y retrouve. Il s'agit donc d'un très grand centre commercial, comme tous les centres commerciaux, à peu près la même taille que ceux que l'on connaît, qui est dédié aux personnes, on va dire, âgées. Enfin, ils s'appellent pas ça comme ça là-bas. Parce que nous parlons de silver economy, mais au Japon, j'entends souvent aussi parler de la gold economy, c'est-à-dire l'âge d'or.
Ah oui.
C'est très positif, c'est un âge d'or. C'est l'âge où on aboutit, on se réalise, etc. Donc c'était déjà une approche, pour dire aussi que c'est un pays qui vieillit.
Hélas.
Donc, ils savent de quoi ils parlent.
Donc centre commercial dédié, il y a une étiquette interdite aux jeunes devant, non
y a pas... Alors justement, non. Ce ne serait pas universel si c'était ça. Mais l'intérêt, c'est que rien ne signale le fait que c'est un centre commercial pour les seniors.
D'accord.
Rien, absolument rien. Toutes les personnes qui sont ici, je ne parle pas de moi, puisque moi je suis dans la cible, mais je parle des autres personnes, peuvent très bien, et d'ailleurs le font, fréquentent son centre commercial, avec bébé, avec poussette, avec et les teenagers qui se baladent là. Il n'y a absolument aucun distinguo entre cette population-là et puis la population des seniors. Mais les seniors, eux, savent que tout a été pensé pour eux. Alors, par exemple, ce serait très long d'en parler, mais vous arrivez avec votre voiture, ces gens-là aussi ont des voitures, on est en banlieue de Tokyo, donc on circule en voiture. Lorsque vous déposez votre voiture, à l'étage concerné, il y a plusieurs niveaux, bien sûr, vous prenez un petit ticket en sortant. Ce petit ticket va vous permettre de repérer l'étage et l'emplacement de votre voiture quand vous allez revenir. Donc ça peut aider pour les personnes âgées qui ont des problèmes de mémoire, etc.
Même pour les jeunes, parce que des fois, on ne sait plus, on a mis sa voiture dans le centre commercial.
Mais ça, c'est, en conclusion, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce qui est fait pour les seniors est valable aussi bien pour les jeunes qui sont un peu étourdis, pour les gens handicapés et qui ne sont pas forcément âgés, et puis pour tous les autres qui aiment les choses faciles, accessibles, simples à ouvrir, à fermer, etc. Bon, alors ce petit ticket, il est malin parce que... il va vous indiquer également le nombre de pas que vous faites dans le centre commercial.
Ah, ouais.
Et si vous faites 1000 pas égale 10 points. Et les points vous permettent d'avoir de bénéficier de promotions, etc. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Si ce n'est que quand on a 30 ans, faire 1000 pas, bon. Mais donc c'est encourageant pour tout le monde. Même les seniors font partie de la communauté dans ce contexte-là. Et puis, vous prenez des escalators. Ben, les escalators sont un peu plus lents que les escalators habituels. Mais d'accord, pas terriblement plus lents, mais suffisamment pour que les seniors n'aient aucun problème. Mais c'est vrai aussi pour les autres, les femmes qui ont des enfants et tout ça. L'escalator un peu plus lent, c'est beaucoup mieux. Vous avez de la moquette qui n'est pas trop épaisse de façon à ce qu'on ne trébuche pas quand on a des semelles en caoutchouc qui ne glissent pas. Donc ça a été étudié pour cela. Et puis, des zones de repos partout. Des fauteuils de différents styles. Et j'ai observé qu'ils étaient fréquentés par tout le monde. Parce que tout le monde se fatigue dans un centre commercial. Ce n'était pas un centre où on trouvait que des personnes âgées. Et ça, c'est très agréable. Les personnes âgées se reposent, mais elles sont à côté de gens de 20 ans, 15 ans, des enfants, etc. Oui, c'est très, très bien fait. Ensuite, vous avancez dans ce centre commercial. Vous arrivez à une sorte... Il y a tous les commerces que l'on connaît.
Oui.
Mais il y a l'équivalent de Darty. Et quand vous regardez un peu attentivement, tous les produits qui sont destinés aux seniors, qui facilitent la marche, par exemple les cannes simplement, oui, ou les petits fauteuils à roulettes avec un moteur, etc., des lunettes spéciales, tout ça est intégré dans le merchandising normal. Il n'y a pas un rayon vieux.
Ça ne fait pas peur, ça ne stigmatise
non,
pas.
Pas du tout. C'est...
Je me demande, c'est pas vous qui l'an dernier nous aviez montré des cannes qui étaient complètement, comment dirais-je, customisées, genre cannes pour anciens rockers, vous voyez, avec peut-être des photos de groupes rock dessus, de hard rock et tout. Donc,
Non, mais c'est ça.
Et comme ça fait pas peur. On a envie d'en acheter une, même si on a 30 ans. Non.
Et
ça
puis,
vous intéresse pas, messieurs, là
C'est même tentant, je veux dire.
C'est tentant, enfin, oui.
Toutes les
donc
couleurs.
C'est vous qui aviez montré ça,
oui,
il y a ça, par
ça.
Exemple.
Et puis ces cannes sont à côté des parapluies, etc. Je veux dire, il n'y a pas un rayon canne qui insiste. Vous avancez, vous scutez ce Darty, vous avez acheté vos appareils qui vous conviennent parce que vous avez des problèmes pour vous déplacer. Et vous allez vous avancer un peu, vous arrivez au niveau food, nourriture, plat préparé. Alors, on sait que les personnes âgées doivent faire attention au sucre, au sel, enfin, toutes ces choses-là, ne pas trop manger. Eh bien, vous avez des... Toutes les portions sont beaucoup plus, enfin, plus modestes, plus réduites et calculées que les fleurs et michons, si vous voulez. Hein? Mais ça n'est pas indiqué comme ça. C'est indiqué « lady portion », des portions pour dames. Hein? J'ai remarqué que tout le monde en achetait. Hein? Pas comme... ça veut donc dire
c'est
que...
valable encore pour les jeunes aussi, de ne pas manger
oui,
trop salé.
Oui, mais « lady pour dames », ça veut dire que vous faites attention à votre silhouette, n'est-ce donc pas? Vous mangez un peu moins gras, un peu moins sucré, etc.
Vous avez une très belle silhouette, M. Caron. Merci, d'ailleurs, on sent que vous avez fréquenté...
Je me nourris chez ladies pour...
Je vais aller avec vous là-bas.
Ouais, donc, vous voyez, ça, c'est... Et puis, on a remarqué aussi que ces personnes âgées aimaient avoir des animaux de compagnie. Donc, vous avez un magasin pour animaux de compagnie, mais absolument extraordinaire. Extraordinaire, il y a de la pâtisserie fraîche.
Ouais. Bon, c'est peut-être pour les chiens-chiens et les chachas.
Pour les chiens-chiens, les chachas, tout ça. Un rayon, mais tout ça est très, très bien fait. C'est un supermarché presque humain. C'est même, sur le plan éthique, un peu choquant pour nous, mais bon, hein, passons là-dessus. Ce n'est pas le sujet de l'émission. Et puis, vous avez aussi des hôtesses qui sont là pour prendre le bain des chiens et le toilettage.
Oui. Mais vous aviez montré des photos. C'est dommage qu'on n'ait pas des photos à montrer. Ouais. C'est spectaculaire. Hein. Vous avez des dames qui nagent avec les chiens-chiens, qui ont des petites bouées tressaillantes, des petites
c'est
choses.
C'est ça. Parce que la maman du petit chien peut prendre le bain avec son petit chien.
Voilà. Ouais. Hein.
Donc, mais alors, on ironise, mais lorsque vous avez 80 ans et que vous avez un petit compagnon, il y a un attachement extraordinaire. Je veux dire, hein. Donc, ça a été pensé par des psychologues, tout ce que vous avez dit se retrouve appliqué là. Après, vous avez plus loin un centre, enfin, je sais pas comment appeler ça, c'est pas un centre médical, ça fait très technique ça, mais ça ressemble à une entrée d'hôtel.
Oui. Hein.
Donc, avec des beaux canapés, etc. Et en vérité, là, vous avez des hôtesses en tenue à la japonaise, évidemment, qui vous accueillent, des petites jeunes filles, des petits jeunes gens, et qui vous demandent quel genre de spécialiste vous fréquentez. Et vous avez 15 professions médicales regroupées là. Ça va du dentiste jusqu'au cardiologue, etc. Mais toutes dans cet ensemble-là. Et quand vous entrez, et ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. mais ça a été calculé pour elles. Donc, il n'y a pas de déplacement à faire. Elles, dans cet endroit-là, il y a toutes les spécialités médicales regroupées et un seul guichet. Oui, donc, tout ça est vraiment bien pensé. Et au fond, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il n'y a rien compliqué là-dedans. Hein. Donc, ça aussi. Et puis, vous continuez ainsi comme ça et vous apercevez que tout a été pensé pour simplifier la vie des gens. Hein. En fait, tout devient simple.
Mais alors, ça n'intéresse pas que les seniors. Ce que vous êtes en train de nous raconter du Japon, il faut l'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que les règles qu'on veut appliquer pour la silver economy au Japon, le design pensé, il est pour toute la population. Il faut commencer à penser eux pour penser à tout le monde ensuite. Mais
vous avez mille fois raison. C'est pour ça que je dis un design spécifique. Oui, quand on est tributaire de certaines... Bon, quand on est dépendant, d'accord. Mais dès qu'on ne l'est pas, on ne nécessite pas un design spécifique.
Et la population dans le centre commercial, Monsieur Caron, vous avez beaucoup de jeunes, je suis sûr, quand même. Il y a pas, ça fait envie, quand même, d'aller dans ce genre de...
Non, mais il y a tout le monde. Vous voyez tout le monde. Seulement, les gens qui sont dans la catégorie dont nous parlons, les seniors, eux trouvent tout ce qui leur convient et de façon simple. C'est adapté à leur mode de déplacement, à leur psychologie. Par exemple, le financement, les banques.
Oui. Hein,
eh bien là, vous avez également, sur un seul guichet, tout ce qui convient au traitement financier, donc les placements, l'argent, la retraite, les mutuelles, ben, toutes ces choses, la sécurité sociale qui est là aussi, tous ces guichets qui sont normalement, il faut parcourir plusieurs lieux pour en trouver, sont réunis. Et là aussi, ce sont des fauteuils, un salon, des hôtesses, des fleurs, etc. Il n'y a rien d'angoissant, de médical. Quoi.
Ça donne envie, au contraire.
C'est, ouais, c'est
ça
le donne envie. Golden Age.
Mais alors, justement, je vous pousse dans vos retranchements. Par contre, le packaging qu'on trouve dans ces centres commerciaux ou au Japon ailleurs, le packaging pour personnes vieillissantes, pour les seniors, est-ce que c'est un packaging qui les identifie bien, les seniors? Ou est-ce que là encore, ça a été pensé, ça a été designé de manière futée?
Eh bien, c'est la seconde option qui est la
qui
bonne.
Est la bonne.
Voilà. Parce que même le L'Oréal japonais, qui est K.O., qui est mon client depuis 40 ans, K.O., il sort d'un shampoing pour cheveux âgés, on va dire, cheveux seniors. Donc ça, c'est la formulation du produit, là, j'ai rien à dire. Mais c'est un très beau packaging, très esthétique, très séduisant, pas du tout laboratoire, pas du tout scientifique, pas produit qu'on trouve dans une pharmacie en France, par exemple, où il y a des... que je critique pas, parce que ça peut se concevoir aussi.
Oui, hein. Oui, bien sûr.
Mais hein, c'est le L'Oréal, donc c'est grand public, avec des grandes campagnes d'affichage, avec des jeunes modèles, etc., pas que des personnes âgées. Et tout a été étudié pour que les personnes âgées, avec des doigts moins souples, un toucher moins sensible, puissent trouver également du plaisir. Donc le plastique est un plastique qui a presque un toucher de peau. Hein. Et c'est valable aussi pour le capuchon qui s'ouvre d'une seule... Juste, vous faites un quart de tour et ça s'ouvre. Hein. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça.
Mais là encore, ça peut plaire aux plus jeunes.
Bien entendu.
Des fois, il faut se battre avec le tube de shampoing. On a envie de le balancer par la fenêtre ou à la poubelle parce qu'il est mal conçu, on est bien d'accord. C'est le rêve, ce pays.
Non, enfin, faut...
Enfin, le rêve, il y a peut-être des... On a envie d'y aller tous à la sortie. Non, de cette... Il y a un avion qui nous attend, mesdames et messieurs.
Et là, je parle d'un centre commercial.
Oui, mais c'est quand même un exemple.
Ça, c'est un bel exemple.
Ça,
oui,
en France, en Europe, vous êtes allé aux États-Unis aussi.
Oui.
Est-ce qu'aux États-Unis, on a ce genre de structure aussi ou pas?
Aux États-Unis, c'est le pays du pragmatisme et des marchés. Donc, les seniors, c'est un marché, mais c'est un pays comme le Japon, mais d'une autre façon, où l'apparence compte beaucoup. Donc, être vieux et malade et fatigué, c'est pas bien vu.
Non.
Hein. Autrement dit, d'où le succès des lifting et toutes ces choses.
N'est-ce pas?
Mais ça, c'est une réponse un peu humoristique du point de vue français, mais pas là-bas. Au Japon, c'est surtout l'autre partie, c'est-à-dire que vous ne devez pas dénaturer la cohérence du groupe. Hein. Donc, être malade, déjà... vous devez aller travailler quand même quand vous êtes malade, parce que sinon, vos petits camarades doivent travailler à votre place. C'est pas bien. Et si vous êtes fatigué ou si vous êtes vieillissé, mais d'une façon un peu trop visible, c'est pas non plus positif. Hein. Donc vous voyez, c'est toujours un aspect culturel et sociologique et psychologique hein, qui détermine ces politiques-là.
Merci pour ce témoignage, Monsieur Caron. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, dans les 10-12 minutes qui nous restent dans cette table ronde trop courte, hélas, qu'on essaie de lister ensemble les critères qu'il faudrait pouvoir utiliser dans l'idéal pour satisfaire cette population de seniors, qu'on en passe par le design spécifique ou design universel. Derrière ces deux notions, il y a des critères. Alors, lesquels ? Est-ce qu'on peut essayer de voir, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut... alors évidemment, il y a le critère d'utilité, vous allez me dire, est-ce que vraiment ça va servir aux seniors ou pas, ou est-ce que c'est du gadget pour le gadget, alors que, et puis une fois qu'on l'aura acheté, il ne sert à rien, on ne sait pas s'en servir. Alors les critères, lesquels vous voulez mettre en avant, vous, Monsieur Boudin, par exemple ?
C'est peut-être un petit peu réducteur, mais malgré tout, une des premières questions qui nous est posée quand on présente un produit à des seniors, c'est combien ça coûte.
Ah oui, le coût quand
même.
Et
pour le moment, c'est quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, donc oui. Je pense que voilà, c'est un élément vraiment très important, la question du prix. Et ce qui est le pendant du prix, c'est la question de la solvabilité en fait des seniors. C'est vrai que là, on ne l'a pas redit, vous l'avez dit en mot d'introduction, mais quand on parle de seniors, on parle d'une population totalement hétérogène, avec des gens qui vont avoir des moyens et qui vont pouvoir acheter des produits même un peu plus chers, et puis aussi avec toute une frange de gens qui vont être plutôt dans des situations de précarité, et pour qui un euro, c'est vraiment c'est une somme, quoi, c'est vraiment important. Donc je pense que déjà, un premier critère, c'est de bien étudier le prix, voilà, et bien étudier le coût. C'est à mettre en rapport avec l'utilité, évidemment, mais en tout cas, ça, c'est, je pense, déjà un premier élément. Je ne sais pas si mes
pas
collègues
la peine
veulent réagir là-dessus.
De proposer des produits trop chers, trop élaborés, on peut tout de suite faire fausse route. Hein.
Alors, on a des gens avec qui on travaille, la Santé, qui parlent en fait de produits minimum viables. Je pense que c'est une notion qui vient du design, hein, directement. Je pense que ça, c'est quelque chose souvent qu'on... Allez-y, peut-être.
C'est dans le courant du Lean Startup, le MVP. Bon, mais c'est...
Non, mais voilà,
oui,
tout à fait.
Mais c'est connexe. Connexe au design thinking, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on est dans des approches et dans des philosophies de conception qui sont similaires, oui.
Monsieur Talek.
Et pour ajouter à ça, en fait, le Lean Startup l'a quand même emprunté au design parce que dans les années 90, Gillian Crampton, qui dirigeait le département de design UX du Royal College of Art, avait en fait une citation qui disait « The right prototype in time ». Et donc le juste prototype au temps du projet. Quel va être l'effort qu'on fait, parce que le prototype, finalement, la conception de ce produit, il va avoir différentes étapes, et c'est connaître les critères structurants, à la fois d'adoption de l'utilisateur, les critères structurants des autres utilisateurs qui vont faire partie de la chaîne de valeur de ce produit, et il n'a pas la même forme aux différentes étapes, ce prototype ou ce produit, parce que les critères vont changer avec la complexité avançante du projet. Mais il y a quatre notions sur lesquelles on peut en tout cas apprendre énormément, et c'est des critères qui sont différents. C'est les critères qui sont liés aux organisations, que ce soit pour le financement, pour la production ou la livraison ou le maintien de ces nouveaux produits demain pour les seniors. Donc tout ce qui est organisationnel. La partie usage, donc tous les critères qui vont être liés aux usages. La partie faisabilité, qui vont être structurants. Et la partie business, parce qu'encore une fois, on va vers des nouveaux modèles économiques. Et effectivement, ces seniors sont avec une force d'achat hétérogène, mais c'est des nouveaux modèles économiques aussi qui se tournent vers les usages qu'on va voir émerger de plus en plus pour ces produits.
Vous avez cité plusieurs critères, il y en a un que vous n'avez pas cité. C'est l'acceptabilité sociale. Mais on en a parlé tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit stigmatisant. Tiens, c'est un produit pour vieux, on me considère comme un vieux, et ben je ne l'achèterai pas parce que je ne me sens pas vieux. On est d'accord,
oui.
C'est important.
Ah ben, on est complètement d'accord. Et effectivement, c'est important de le souligner à nouveau. Le côté non stigmatisant, le côté aussi qu'en fait, l'avancée en âge peut être difficilement vécue parfois. Et effectivement, les seniors peuvent avoir envie de pas forcément afficher leur âge, ni à eux-mêmes ni aux autres. Ils peuvent avoir envie de partager les mêmes produits que leurs enfants, leurs petits-enfants, tout leur entourage social. Et donc, encore une fois, ça pousse à la non-stigmatisation. Disons que ça nous incite à chercher des solutions non-stigmatisantes. Et puis, je voudrais revenir peut-être avec un petit clin d'œil sur le critère d'utilité. Je ne suis pas forcément convaincue de ce critère, de la nécessité d'avoir une vision utilitariste de la conception ou de l'innovation. tout le monde peut aussi avoir envie d'utiliser des produits qui ne sont pas forcément utiles, qui n'ont pas de voilà, qui
servent
à rien,
pour se faire plaisir. Voilà, parce que c'est beau, pas, c'est sympa, c'est
parce
fun.
Quelque part, ça répond quand même à un besoin, même s'il n'y a pas d'utilité fonctionnelle là directe et de bénéfices fonctionnels. Ça peut être quelque chose aussi qui participe à l'épanouissement de soi. Voilà. Donc le critère d'utilité. Je le mets avec un point d'interrogation.
Pas forcément tout le temps.
Forcément. On peut aussi avoir envie.
Parce qu'on l'a dit lors d'autres conférences, souvent les seniors, au terme d'une vie professionnelle, ils ont à peu près ce qu'il leur faut, sauf quand malheureusement la situation a été mauvaise. T'es au chômage, il n'y a pas de gros revenus. Mais a priori, on a son logement, on a à peu près tout. On est bien équipé. Donc, pensez aussi à ça, se faire plaisir et pas uniquement l'utile, parce que l'utile, on l'a déjà chez soi.
Absolument.
Absolument. C'est ce que vous voulez dire.
C'est ça, c'est les différents niveaux de besoins. Il y a les besoins effectivement utilitaires, on va dire, les besoins de survie, les besoins de sécurité, tout ça, bien sûr. Mais il y a aussi les besoins d'accomplissement qui peuvent dépasser des critères purement fonctionnels, etc.
Donc il faut y penser. Madame Jameau, je reviens vers vous. Vous parliez de ce label AFNOR, testé et approuvé par les seniors. Derrière, c'est le mot confiance. C'est aussi un critère. Il faut donner confiance pour arriver à bien toucher sa cible.
Oui, c'est vrai.
Et ça ressemble
c'est tout,
à ça.
Oui. Alors, c'est tout l'intérêt, justement, d'avoir un label qui soit décerné par un tiers indépendant, dont c'est en plus la spécialité, pour le coup, pour nous. C'est vrai que c'est pas... Il y a tous les efforts qu'on fait pendant la conception du produit et aussi pendant son développement et sa commercialisation. Le fait d'avoir, effectivement, un coup de pouce par un signe de reconnaissance extérieure de confiance qui est complètement indépendant de l'entreprise qui l'a demandé, contribue aussi à la confiance qu'on peut avoir dans le produit. Mais évidemment, il faut être réaliste, tous les produits ne seront pas labellisés et il y a d'autres manières de créer ce lien de confiance.
Je reviens vers vous, Monsieur Caron. Le critère, à travers votre expérience internationale, le critère pour réussir vis-à-vis de ces seniors, c'est quoi pour vous l'un des critères majeurs
Oui, vous doutez qu'il est difficile de répondre à une question comme ça, ça dépend de l'objet, mais je peux dire quand même globalement que la personne âgée n'apprécie pas véritablement la vitesse, ce qui demande des réflexes très vifs, et dans l'électronique on trouve des appareils qui ne sont pas tout à fait adaptés à cause de ce critère. Donc ça c'est la vitesse, et puis la complexité aussi. Donc deux critères importants pour moi, c'est le temps.
La gestion du temps, prendre son temps bien. Si c'est dans l'air du temps aussi, ça concerne aussi les jeunes.
Oui.
Il y a le slow food, il y a plein de mouvements qui nous disent ralentissons, prenons le temps de vivre et de.
Le temps et la simplicité.
Enfin,
pour moi, c'est deux mots clés en tant que designer.
Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette table ronde. Alors. J'aimerais que vous me délivriez chacun un message, votre message à vous, votre conseil pour répondre à cette question, design spécifique, design universel, qu'est-ce qu'il faut choisir pour répondre aux besoins des seniors. Vous, c'est quoi votre priorité, le conseil essentiel que vous avez à donner, monsieur le psychologue, docteur en psychologie?
Alors, clairement pour moi, mais je pense que je suis content de parler en premier, du coup, mettre les utilisateurs au centre. C'est vraiment...
Les utilisateurs au centre.
S'il y a une chose qu'il faut garder, que ce soit en design spécifique, en design universel, je crois qu'au fond, ce qui est le point commun à toutes ces démarches, c'est l'utilisateur, c'est le fait du statut, en fait, de la parole de l'utilisateur et de son vécu. On l'a dit, je crois très bien, effectivement, il y a l'aspect utilité, il y a l'aspect plaisir. Si on peut avoir les deux, tant mieux, à la limite. Mais en tout cas, vraiment, cet utilisateur au centre de la démarche de conception, ça me semble être vraiment le message fort.
Ça, c'est clair. Madame Jameau, pour la FNOR.
Oui, mais je vais dire...
la même chose.
Pareillement, oui, tout à fait. On a placé l'usage et les seniors au cœur de la démarche. Donc oui, bien sûr, l'utilisateur.
Monsieur le japonais.
Justement, au Japon, ils disent que la personne âgée, donc le senior... C'est une personne comme une autre. Ça veut dire, bien sûr, on voit ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire qu'il faut la traiter comme une personne, point.
Absolument. Madame Buisine. Ah, c'est compliqué.
Donc,
hein.
Oui,
mais
mot-clé,
hein,
je,
voyez,
je rebondis également sur mon collègue et je dirais dans le sens où dire la personne âgée est une personne comme une autre, moi, le mot que je veux reprendre, c'est non-stigmatisation.
On ne stigmatise pas. Et M. Talek, vous, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je dirais que justement sur le parcours du senior, on peut être les deux. Ça se digitalise et il y a des technologies qui vont permettre d'être les deux en même temps, mais qu'il faudra surtout pas avoir que l'utilisateur senior au cœur et être avec son écosystème, sa famille et la transformation de son écosystème, ses aides-soignants et voilà.
Pensez à l'environnement du senior, donc absolument.